Bonjour à tous, aujourd'hui dans la rubrique La télé de mon enfance, eh bien, c'est la science-fiction qui est à l'honneur avec une série américaine qui a fait vibrer les garçons mais aussi quelques filles. Je veux parler bien sûr de L'homme qui valait 3 milliards. On va tout d'abord découvrir le générique français qui, avec la voix d'Oscar Goldman, donnait déjà toutes les clés pour appâter un public jeune et moins jeune.
Numéro 1, Roger, contact BDSI. Ok, contact soupape Lock Motor 7, fermez les gaz. Détachement engagé. Roger, tableau intérieur et extérieur allumé, amorce du piqué. Oscar, j'écoute. Extinction, danger 3, ramenez point 0. Latéral ne répond plus, je ne peux pas maintenir l'altitude. Correction alpha sans résultat, sélecteur de secours, je ne peux pas redresser. Rupture de circuit, rupture...
Steve Austin, astronaute, un homme tout juste vivant. Messieurs, nous pouvons le reconstruire, nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de donner naissance au premier homme bio-ionique. Steve Austin deviendra cet homme. Il sera supérieur à ce qu'il était avant l'accident. Le plus fort, le plus rapide, en un mot, le meilleur.
Original de la série est The Six Million Dollar Man, traduisez l'homme de 6 millions de dollars. Alors la première question qu'on peut se poser, c'est comment en traversant l'Atlantique, la valeur de Steve Austin a tellement augmenté? Elle a pris presque 50 000% d'un continent à l'autre. En fait, l'explication est autant historique que sociale. La conversion de 6 millions de dollars en 1973 équivalait à 30 millions de francs à l'époque. Mais pour ne pas perdre les téléspectateurs moins jeunes, les producteurs passent la somme en anciens francs, d'où la nouvelle plus-value donnée à Austin, 3 milliards. La série est librement adaptée du roman très sérieux de Martin Kaidin qui s'appelle Cyborg. Le livre raconte comment un astronaute, victime d'un crash, est le premier humain à devenir un cyborg après la greffe de plusieurs membres bioniques. Dans le livre, on s'intéresse d'ailleurs plus à la lente adaptation de Steve Austin à ce corps qu'il découvre et à la psychologie qui l'accompagne, alors que dans la série, on est en fait, dès le premier épisode, plongé dans une espèce de James Bond au cœur d'un monde en pleine guerre froide. La série va nous tenir en haleine pendant 99 épisodes, pendant 5 saisons, d'abord en janvier 1974 aux États-Unis, avant d'arriver pile un an plus tard sur Antenne 2. Les multi-rediffusions sur TF1 en 1980, puis sur la 5 en 88, ont permis à une génération qui s'étale sur plus de 12 ans de découvrir l'homme qui valait 3 milliards. Alors dès le générique, je vous le disais dans l'intro de ma chronique, Oscar Goldman, le supérieur hiérarchique de Steve Austin, nous annonce la couleur. On va assister aux exploits d'un surhomme, reconstruit de toutes pièces par le miracle de la technologie. Donc assurément, il va être de bon ton d'utiliser cet investissement. 6 millions de dollars américains tout de même à des fins sécuritaires, d'où son emploi, un petit peu forcé il faut le dire, comme on le découvre dans l'épisode pilote de 1974, comme agent secret à l'OSI, Bureau gouvernemental de l'information scientifique. On est donc parti pour une série qui mêle l'espionnage et le terrorisme, souvent pratiqué par les Américains eux-mêmes, comme dans un bon James Bond des années 70. Alors les atouts nouveaux de Steve Austin, eh bien, outre un cerveau plutôt bien fait, un corps athlétique et des connaissances scientifiques encore plus poussées que celles de MacGyver qui n'est pas encore né, se résument aux parties de son corps qu'on a entre guillemets réparées. Le bras droit, les jambes et l'œil gauche sont remplacés par des prothèses bioniques. Il a une vision améliorée, il peut soulever des charges énormes, on a bien envie de l'embaucher pour déménager sa machine à laver, et il court plus vite que son ombre, il peut aller jusqu'à 100 km/h. Mais comme Superman a sa kryptonite, Austin a un ennemi redoutable, c'est le froid.
Je connais la théorie de la bio-ionique aussi bien qu'Oscar Goldman. Je n'ignore pas que les composants bio-ioniques se détruisent à moins 20 degrés. Ça doit figurer dans votre mode d'emploi, n'est-ce pas, monsieur Austin?
Pour exprimer visuellement les exploits de l'homme bionique, eh bien le ralenti a servi à mimer la vitesse excessive du personnage. Non, c'est pas une blague. On a bien utilisé le ralenti pour exprimer la vitesse, même si ce sont deux valeurs antinomiques. Idem pour le jeu du « Je soulève une voiture avec ma main ». On voit que Steve Austin peine avec le gros rocher en carton-pâte. Et ce qui nous fait comprendre que c'est lourd ou qu'il court très très vite, ce sont ces trois petits sons métalliques qui soulignent sa puissance considérable, qu'on ne découvrira d'ailleurs dans la série qu'à partir de la saison 3. Écoutez bien.
Une cible mouvante.
Ça nous rappelle quelques bons souvenirs. Pour incarner Steve Austin, l'auteur de Cyborg voulait que le rôle soit endossé par Monte Markham, qui est un acteur américain qui jouait Perry Mason dans The New Perry Mason. Mais la production, lui, a préféré Lee Major. Il faut avouer qu'ils ne s'y sont pas trompés. Entre les deux, il y a un fossé de sex appeal. Toutefois, l'écrivain verra son projet presque aboutir puisque Monte Markham jouera finalement le second homme bio-ionique de la série, l'homme qui coûtait 7 millions de dollars pendant 2 épisodes. Alors avec un physique comme celui de Lee Major, il fallait un doublage viril, masculin. On va dépêcher le comédien de talent Dominique Paturel pour ça.
J'avais deviné juste. La réponse de l'ordinateur indique que des ultrasons de la gamme alpha ont été étudiés dans le projet gouvernemental H-432. Arme expérimentale tactique d'infanterie fonctionnant sur batterie. Projet abandonné il y a 3 ans à cause de difficultés de mise au point. Attendez, il y a une suite. L'auteur du projet était un certain docteur Stanley Bacon, disparu sans laisser de traces il y a 18 mois et recherché activement. Gardez le contact Goldman.
Pas besoin de le présenter, il appartient à la grande famille des doubleurs que sont Jacques Balutin, Jean Taupart, Michel Roux ou encore Francis Lax. Dominique Paturel, c'est une voix grave, un peu cynique parfois, mais qui nous ramène des années en arrière. D'abord, dans le domaine de la série télé, non content d'avoir été la voix d'Austin pendant 5 saisons, il a été celle d'un méchant qu'on a adoré détester depuis 1978. Vous allez le reconnaître tout de suite à travers cet échange avec sa femme.
Sous Hélène, quand tu es revenue auprès de moi, je me suis promis de ne plus jamais te raconter d'histoire. Mais j'ai besoin de toute ta confiance quand je prends certaines décisions.
Tu n'as rien dit à la police.
Vous avez bien sûr reconnu la voix de J.R. Ewing. Mais Dominique Paturel, c'est aussi la voix de Roy Thynnes qui s'égare au détour d'un chemin qu'il n'aurait jamais dû prendre dans Les Envahisseurs. Et enfin, la voix narratrice d'un dessin animé culte des années 80.
Au fin fond de l'univers, à des années et des années-lumière de la Terre, veille celui que le gouvernement intersidéral appelle quand il n'est plus capable de trouver une solution à ses problèmes. Quand il ne reste plus aucun espoir, le capitaine Flamme.
Et pour finir, si vous avez envie de coller un visage sur cette voix qui a été quand même la voix française de Terence Hill, allez découvrir sur internet la série en 3 époques d'Artagnan où il tenait justement le rôle principal aux côtés du grand François Chaumette. Vous allez voir, sa voix était déjà jeune mais reconnaissable.
Maintenant que vous êtes réunis, permettez-moi de vous présenter mes excuses. Non, je me fais mal comprendre. Je ne veux m'excuser que d'une chose, c'est de ne pouvoir vous payer ma dette à tous les trois. Monsieur Athos, en effet, a le droit de me tuer le premier, ce qui enlève beaucoup de valeur à votre créance, monsieur Porthos, et rend la vôtre à peu près nulle, monsieur Aramis.
Le grand second rôle de la série, c'est celui d'Oscar Goldman, le supérieur du colonel Austin. Il est incarné par Richard Anderson. Alors peu connu en France avant la série, avec un physique un peu lisse, passe-partout, il a surtout eu des seconds rôles dans le cinéma américain des années 50. On le retrouvera par la suite dans le spin-off de L'homme qui valait 3 milliards, mais ça on en reparle à la fin de la chronique. On va aller quérir Jacques Deschamps pour le doubler.
Ah, te voilà, je suis content de te trouver.
Tu as les résultats ?
Joss avait parfaitement raison, il y avait bien une erreur dans le programme.
Et sa théorie sur l'origine de l'espace et du soleil ?
Elle est parfaitement valable, j'ai là tous les éléments pour le prouver.
Et si la voix de Jacques Deschamps vous est aussi connue et familière, c'est que c'est la voix française de Clint Eastwood pour la trilogie du dollar, dont on va s'écouter un extrait mythique.
Tu vois, le monde se divise en 2 catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.
Jacques Deschamps a aussi été la voix de Robert Stack dans Les Incorruptibles. Au total, il a doublé plus de 250 films tout au long de sa carrière. Comme à chaque chronique, un petit mot sur la musique du générique. Elle est signée Oliver Nelson, un saxophoniste de jazz connu pour avoir participé à de nombreuses bandes-sons de séries télévisées comme Columbo, L'Homme de Fer ou encore L'Homme qui valait 3 milliards. On va finir cette petite chronique avec quelques petites anecdotes notables sur la série. D'abord, le crash d'avion qu'on entend dans le générique est tiré de la bande-son d'un vrai crash survenu le 10 mai 1967 en Californie, au cours duquel le pilote Bruce Patterson a perdu l'œil droit. Il dit qu'à chaque épisode, il lui est pénible de revivre le son du crash. La série a permis au spin-off Super Jamie de voir le jour et on aura une chronique prochaine consacrée à l'héroïque bionique. En passant, éclaircissons cette énorme faute de prononciation sur le mot bionique. Dans toute la série, on a une espèce de diphtongue qui arrive là où il n'y en a pas. En anglais, effectivement, bionic se prononce bionic. Mais en français, les traducteurs ont sorti de leur chapeau un espèce de bio-ionique. C'est n'importe quoi. Le mot bionique se prononce comme il s'écrit, bollocks and bullshit. En 1976, au début de la quatrième saison, Lee Major a décidé de changer de look et d'arborer une fine moustache. Pourtant, le plus sexy des moustachus Magnum n'avait pas encore donné le ton, puisque la série déboulera sur le PAF américain seulement 4 ans plus tard. Alors quoi ? Nostalgie d'Errol Flynn ? De Clark Gable ? En tout cas, le temps n'était pas aux moustachus, les fans étant mécontents, il a dû se contraindre à raser sa petite moustache. Dès la cinquième saison, Lee Major se la joue rebelle. Il change de look vestimentaire, de coiffure, pour finalement jeter l'éponge, malgré un rôle qui lui a valu un Golden Globe en 1976. Il attendra plusieurs années avant de revenir à la télévision, sans moustache encore, dans le rôle de Colt Sivers, un homme non pas qui valait 3 milliards, mais qui tombe à pic. Allez, je vous dis au revoir, à la semaine prochaine, et ce sera l'occasion d'avoir une chronique sur un dessin animé qui s'appelle Clémentine. Allez, ciao, bon week-end.